Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site lesherosdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jade Awad. Jade, salut.
Salut Alex, merci de m'accueillir.
Ouais, avec plaisir. Alors Jade, première question. Pourquoi c'est intéressant de t'écouter aujourd'hui et tu peux en profiter pour te présenter grâce à cette question.
Ok. Alors, pourquoi c'est intéressant sera aux auditeurs de le dire, mais en tout cas pour me présenter, moi je m'appelle Jade, j'ai 38 ans, j'ai baigné 10 ans dans le monde des startups, essentiellement au départ dans le milieu de la vente, commercial, manager commercial, directeur commercial. Et puis depuis 3-4 ans, je me suis mis à mon compte en tant que formateur et consultant pour accompagner et les commerciaux et les managers. Et depuis maintenant un an et demi, je suis cofondateur de Will. Peut-être en un mot, Will, c'est une méthode et une formation. Ça a été créé par Pierre Fournier. Moi, je l'ai rejoint en late cofondateur. L'idée, c'est qu'on a créé une boîte à outils, une méthode à destination des managers. On a compilé, simplifié tout ce qui se fait de mieux en matière de coaching, en méthode de coaching, à destination et en l'adaptant aux managers pour qu'ils puissent mieux développer le potentiel de leurs équipes.
Ok, très bien. Bah, tu as un peu teasé le sujet du jour. Hein. Aujourd'hui, on va parler de management et notamment de management commercial. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup d'épisodes sur le management. Donc c'est intéressant parce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent, je pense qu'ils vont pouvoir... trouver des conseils pour leur management. Donc aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est comment aider les managers commerciaux à mieux gérer l'humain. On sait que l'humain, c'est la chose la plus complexe hein, quand on travaille dans une entreprise. Pourquoi tu voulais aujourd'hui nous parler de ce sujet, Jade?
Comme je le disais un peu en intro, j'ai été moi-même manager commercial, j'ai été directeur commercial et je pensais d'ailleurs être plutôt un bon manager et je pense que j'étais pas catastrophique non plus, mais en apprenant après coup les méthodes que j'enseigne aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire beaucoup mieux, j'aurais pu beaucoup plus libérer le potentiel de mes équipes, que j'aurais pu moi me libérer une charge mentale et qu'en plus, je me suis rendu compte, ce qui est encore pire, qu'il y a des choses que je pensais bien faire qui en fait plombaient l'équipe, alors que ça partait d'une bonne volonté. Donc voilà pourquoi en fait j'ai voulu parler de ce sujet. Si ça peut aider très humblement des managers ou des directeurs commerciaux aujourd'hui, ou ça peut créer des déclics, j'en serais ravi.
Ok, très bien. C'est parfait. Alors pour que l'épisode soit vraiment actionnable pour les auditeurs, on l'a préparé en deux parties. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première partie, tu voulais nous parler des process. Pourquoi tu voulais nous parler des process, Jade?
Oui. En fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Alex, ou les managers qui nous écoutent, c'est que dans le monde de la vente, on a cette croyance forte que les process, c'est la clé de tout. En fait, si on processe bien notre vente, on vend bien et tout se passe bien. Attention, je ne dis pas que les process ne sont pas bons. Au contraire, j'ai moi-même formé à ces process, je continue à les utiliser. C'est très bien d'avoir des méthodes de vente. Juste ce que j'ai constaté, c'est qu'en tant que manager ou directeur commercial, on a tendance à presque surexploiter le process et se dire le process est là, donc ça ne sert à rien de travailler l'humain. Si les gens font ce qu'on leur dit, ça va marcher. Et c'est là où pour moi, le bas blesse un peu, c'est qu'on a du coup une posture un peu command and control, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que vraiment, on est maître du process et on va le donner à nos équipes. On va leur dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, on va peut-être oublier d'individualiser l'approche. On va peut-être se dire que tous les commerciaux doivent faire tous la même chose et que ça va marcher parce que c'est comme ça que ça marche. Et donc, on va peut-être pas travailler sur l'humain de chacun parce qu'on reste quand même des humains, on a des valeurs différentes, on a des compétences et des capacités différentes. Et donc, voilà pourquoi en fait, je voulais souligner ça. Juste dire attention, vraiment, je fais attention à mes propos. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de process, au contraire. Mais voilà, on a tous été formés à MEDIC, à BBDC, à des méthodes comme ça et c'est très bien. Mais ça, c'est des méthodes métiers. On accompagne nos managers, nos équipes sur le métier de la vente, mais on ne les accompagne pas à se développer humainement et en tant que commercial en utilisant leur force à eux.
Ok. J'imagine que forcément, les managers commerciaux qui sont en poste, les process pour eux, c'est bien sûr une manière de se rassurer. Est-ce que tu penses que ça cache aussi quelque chose d'autre de mettre en place ces process et peut-être d'oublier un peu la partie ressources humaines?
En fait, c'est intéressant ce que tu dis, ça cache autre chose, ça leur permet de se rassurer. Le heal, c'est moi aussi, hein. Moi, ça me permet en tant que manager, directeur, de savoir où en est mon équipe, ça me permet d'avoir une certaine rationalité, un peu chiffrée de ce qui se passe, et ça, c'est très bien, d'accord, d'avoir les tendances. Ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas, en fait. Vous ne pouvez pas juste manager avec du process, du respect de process, de l'atteinte de KPI, etc. Je donne un exemple tout bête. Si vous avez quelqu'un qui ne remplit pas son CRM, qui ne fait pas une partie du process que vous lui avez donné, on peut avoir tendance en tant que manager à se dire, mais en fait, remplis-le, quoi. Fais-le. Il y a un comportement qui ne va pas, qui ne convient pas à nos process, et on se dit, bah vas-y, fais-le. Et donc, on répond au même étage. On répond au comportement par un comportement. Dans la méthode Will, on explique qu'il y a une des méthodes qu'on utilise qui s'appelle la pyramide des niveaux logiques. En gros, on explique qu'il y a plusieurs étages. Il y a l'environnement, il y a les comportements, les activités. Donc là, on est sur le niveau du comportement. Je ne remplis pas mon CRM. Au-dessus, il y a les compétences. Est-ce que je sais faire? Est-ce que j'ai les compétences pour savoir faire remplir mon CRM? Au-dessus, il y a les valeurs. Est-ce que c'est important pour moi? Et au-dessus, il y a le rôle. Est-ce que je pense que c'est à moi, en tant que commercial, de remplir ce CRM? Et en fait, souvent, en tant que manager, on a tendance à foncer sur tu ne le fais pas, il faut le faire, parce que le process dit de le faire. Et on ne travaille pas sur le pourquoi, finalement. Qu'est-ce qui fait qu'il ne le remplit pas? Est-ce que c'est qu'il ne sait pas faire, et donc je dois le former à le faire, à utiliser l'outil, etc. Est-ce que c'est un problème de valeur, c'est pas important pour lui, ou il trouve que c'est une perte de temps? Et dans ce cas-là, il faut travailler sur les valeurs, sur si ça fait partie aussi de quelque chose qui va te faire gagner du temps à moyen terme. Peut-être que là, tu passes un petit moment, mais tu vas gagner du temps après. Donc, en fait, ça cache les raisons profondes de pourquoi les membres de vos équipes ou vos équipes font ou ne font pas quelque chose comme vous le voulez. Et quelque part, ça rassure. Un peu le process, c'est un peu un moyen justement de command and control. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit que le process, ça, il faut que tu fasses comme ça. Et du coup, on ne se pose plus la question de peut-être l'améliorer, ce process. Peut-être qu'il y a des choses là où les membres de l'équipe auront des meilleures idées que nous pour l'améliorer ou qu'il y a peut-être une réalité, à force d'être manager, on s'éloigne un peu parfois du terrain qu'on ne voit plus. D'accord ? Donc voilà ce que ça peut cacher, entre guillemets, d'être juste focalisé sur le process.
Ouais, puis j'imagine que tu peux avoir des effets négatifs. Notamment, par exemple, infantiliser tes commerciaux, et j'imagine que ça peut être contre-productif.
Ouais, je pense que là, tu touches le fond du sujet. C'est que moi, un des gros déclics que j'ai eu en tant que manager ou directeur, c'est que je pensais qu'en tant que manager, c'était à moi d'amener les solutions. C'est moi le sachant, c'est moi qui sais comment vendre, comment développer, etc. Donc, c'est à moi de leur apprendre et de leur amener la solution. Et en faisant ça, tu as raison, il y a deux effets qui se coule, comme on dit aujourd'hui, il y a deux effets négatifs. Le premier, c'est que moi, je me mets une charge mentale monstrueuse tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à moi de trouver la solution. Et donc, je me mets dans mon coin et pendant une heure, je réfléchis, j'essaie de trouver des stratégies, des choses. Et donc, je m'épuise. Et deux, comme tu l'as dit, j'infantilise mon équipe parce que je ne les laisse pas participer à trouver eux-mêmes la solution et même à identifier par eux-mêmes quel est finalement le fond du problème.
Très bien. Et donc, je résume, hein, on prend en charge un poste, on met en place des process, et puis on tombe dans des effets pervers de vouloir tout contrôler, de se baser sur les process et d'oublier en fait pourquoi nos collaborateurs, quel est le sens de leur travail et pourquoi ils font ça. Une fois qu'on a posé ça, qu'on a dit ça, quelles sont les solutions pour passer outre ces écueils?
Oui. Écoute, en fait, c'est simple, c'est pas simple justement, mais c'est qu'il faut réindividualiser l'approche de management. C'est-à-dire qu'en gros, dans ton équipe commerciale, tous les commerciaux ne fonctionnent pas de la même façon. Ils n'ont pas tous le même levier de motivation, ils n'ont pas tous le même objectif personnel ou les mêmes envies dans la vie. Et en fait, si tu ne prends pas le temps de comprendre ça, tu passes à côté d'énormément de choses. Okay. Il y a un peu cette croyance dans le milieu de la vente, que en fait, ce qui drive les commerciaux, c'est l'argent, c'est la prime, c'est le bonus. Okay. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais chez Groupon, à un moment, les équipes ne signaient pas assez de restaurants. Du coup, pour les faire signer un peu plus, on a mis une prime à la signature. C'est quand ils signaient un resto, bah, ils avaient une prime. Ça a un peu marchoté à court terme quand on a mis la prime. Et puis, dès qu'on a enlevé la prime, ça ne signait plus de resto. Donc, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne signent pas le resto? Est-ce qu'ils n'ont pas la bonne approche? Il faut les former dessus. Est-ce qu'ils pensent que ce n'est pas ce qui va leur apporter le plus? Donc, finalement, on ne s'intéressait plus au fond du problème. On travaillait les symptômes et pas la source, en fait. Et pour répondre à ta question, comment on fait? Ben, en fait, il s'agit d'utiliser des méthodes qui existent depuis 30 ans dans le monde du coaching pour avoir une posture que nous, on appelle de manager coach, c'est-à-dire qu'en gros, on va aider la personne en face de nous à prendre conscience par elle-même de quel est le problème, quels sont ses leviers profonds de motivation et co-construire avec elle la solution et pas lui donner. Faire en sorte que ça vienne d'elle, en fait, et que ça soit rattaché à ses valeurs profondes. Et ça, c'est des méthodes, en fait, sur lesquelles on peut se former. Et moi, je n'avais jamais été formé à ça en tant que manager commercial.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de méthodes qu'un manager commercial peut mettre en place pour améliorer l'engagement de ses collaborateurs?
Bien sûr. Tu vois, par exemple, l'écoute active, tout le monde en parle. Personne ne te dit concrètement comment la mettre en place et comment l'utiliser. Souvent, on te dit dans la vente, quand on te forme à la vente, on te dit c'est poser des questions ouvertes, etc. Mais ce n'est pas que ça, l'écoute active. C'est qu'on a tendance, en tant que manager, à toujours projeter, et même en tant qu'être humain, nous tous, on projette sur l'autre notre façon de voir les choses. Quand quelqu'un vient nous voir avec un problème, on comprend ce qu'on veut comprendre avec nos biais cognitifs, avec notre vision du monde, avec notre expérience, nos valeurs. Et en fait, l'écoute active, par exemple, ça peut te permettre de ne rien projeter et d'essayer de faire prendre conscience à l'autre et lui faire verbaliser par lui-même quel est vraiment le problème. Je te donne un exemple tout bête. J'avais un de mes commerciaux, quand on a un peu changé la stratégie commerciale, il me dit « Mais moi, j'arrive pas à le faire, ça. J'arrive pas à prospecter comme tu me le demandes. » Et moi, dans ma tête, tout de suite, j'ai compris « j'arrive pas », c'est qu'il ne sait pas faire. Donc, en fait, il faut que je le forme. Et j'ai passé des heures à le former, et ça ne changeait pas. Il ne se mettait pas en route sur cette nouvelle façon de faire. Au fond, le problème, ce n'était pas qu'il ne savait pas. Donc, on reprend la pyramide de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'était pas un problème de compétence, c'était un problème de valeur. Ce n'était pas important pour lui de faire ça. Et même, c'était un problème de rôle. Pour lui, son rôle, à un moment, quand j'ai fait de l'écoute active, quand je lui dis « mais quand tu dis que tu n'y arrives pas », et je me tais, je marque un silence, et lui, il va développer. Et puis, je rebondis sur tous les raccourcis de langage, tous les mots qu'il va utiliser qui sont un peu flous ou que je pourrais interpréter. Au lieu de les interpréter, je vais les renvoyer en miroir pour qu'il aille plus loin, pour qu'il me dise plus ce qu'il entend par là. Et en utilisant cette technique, au final, je comprends qu'il me dit « Non, mais moi, en fait, mon rôle, c'est pas ça. Mon rôle, moi, c'est de passer des appels et de faire un maximum en termes de quantité. » Alors que là, on était passé sur une stratégie de qualité, d'accord ? Et donc, je comprends que pour lui, il y avait un problème de valeur. C'est pas important pour moi de faire de la qualité, et puis c'est pas mon rôle. Donc, du coup, j'ai pu retravailler avec lui là-dessus. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas les outils pour identifier ça et j'ai perdu énormément de temps. Je suis passé à côté du problème pendant très longtemps, quoi. Et puis, ça provoquait des conflits et je le prenais mal, je le vivais mal. Je me disais, il ne me respecte pas, il ne veut pas faire ce que je lui dis, etc. Alors que je ne comprenais pas la source profonde. Donc, l'écoute active, par exemple, c'est un exemple pour arriver à comprendre vraiment à aider la personne à elle-même identifier son problème et à le verbaliser.
Oui, si on voulait un peu caricaturer, on pourrait dire, on pense souvent que les commerciaux, c'est des robots, ils sont là pour prendre leur téléphone et faire du chiffre, et on oublie que chez les commerciaux, il y a un turnover dans les entreprises très important, et en face de ça, en plus, il y a une pénurie de commerciaux sur le marché, donc c'est pas si facile que ça de recruter, et donc il faut quand même avoir ça en tête quand on manage des commerciaux. Et comme tu dis, souvent la solution, elle est chez le commercial, elle est chez le collaborateur.
Ouais. Nous, on a cette croyance forte dans le management qu'on prône à la Will, c'est que la solution est déjà chez vos collaborateurs.
Okay.
Et en fait, notre rôle en tant que manager ou directeur, c'est un peu presque de la maïotique à la Socrate, c'est de l'aider à accoucher de la solution qu'il a déjà en lui. Et si vous arrivez à faire ça, c'est ultra puissant parce que, comme tu dis, ça fidélise ton équipe commerciale. Elle se sent incluse, elle se sent comprise et elle a envie de continuer avec toi et ton projet. Et deuxièmement, ça bat en brèche cette croyance. Il y a beaucoup de fausses croyances, je trouve, moi, dans le monde commercial, dont je suis moi-même victime. Et j'y ai participé en tant que manager. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, ce qui drive, ce qui motive profondément les commerciaux, c'est l'argent. D'accord ? Alors, je ne dis pas que l'argent n'aide pas, d'accord ? Mais en fait, la croyance, c'est qu'il faut mettre des variables, il faut mettre des bonus. Je ne parle pas du fixe. Hein. Le fixe, c'est normal de payer correctement les gens pour un métier, d'accord ? Mais je parle du variable. On a cette croyance qu'on ne peut pas faire de la vente sans variable, sans prime, sans bonus. Sauf qu'en fait, les études, il y a un livre qui s'appelle Punished by Rewards, qui est écrit par, si vous voulez le retrouver, par Alfie Kohn, K-O-H-N, qui te montre par A plus B que toutes les études prouvent que la récompense, et encore plus la récompense monétaire, prime, bonus, n'a que des effets négatifs. Il n'y a aucune étude qui montre réellement sur l'humain, il y a des études sur les animaux, mais sur l'humain, qui montre que la récompense génère de l'effet positif. Et qu'en fait, pourquoi ? Parce que l'argent, le variable, etc., c'est de la motivation extrinsèque. Ça va peut-être marcher à très très court terme pour obliger quelqu'un à faire quelque chose. C'est l'exemple qu'on disait tout à l'heure, c'est un moyen de contrôler. C'est-à-dire, je veux que tu signes des restos, tiens, je te donne un petit ticket de 100 si tu signes tel resto. Ok, et il va le faire. Mais est-ce que profondément, il a changé son comportement ? Est-ce qu'on comprend pourquoi il faut signer ce resto ? Non. Et donc, l'idée, c'est de revenir à quels sont les leviers profonds de motivation et les relier à la mission, à la stratégie de ta société, mais en individualisant l'approche, puisque chacun a des leviers différents, d'accord ? Et des leviers qui sont intrinsèques. C'est-à-dire qu'il faut trouver les leviers intrinsèques de son équipe. Et ces leviers intrinsèques, ça peut être la recherche d'impact, de challenge, ça peut être l'apprentissage. Tu vois, ça, c'est un levier très fort intrinsèque. C'est, j'aime apprendre, et du coup, tu vas nourrir ton commercial, tu vas l'amener à se développer, à apprendre de nouvelles choses, à tenter des choses, à prendre des risques, et pas être forcément dans l'application de ce que tu lui dis forcément, tout le temps.
Ok. Sur le sujet du variable, c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast. Alors, tu as plusieurs écoles, bien sûr. Hein. Tu as l'école traditionnelle de dire impossible de motiver les commerciaux sans variable. Tu as l'école aussi qui dit, en fait, plus tu es sur des cycles de vente complexes, plus le variable a moins de sens, puisque forcément, tu vas attendre longtemps avant de toucher le variable. Et il vaut peut-être mieux avoir un fixe élevé qu'un variable élevé. Et ensuite, par contre, sur des ventes beaucoup plus courtes, moins complexes, là, avoir du variable, ça a du sens parce que tu peux avoir beaucoup de ventes rapidement. Est-ce que toi, tu dis qu'il y a aussi une troisième voie où il n'y a pas de variable du tout, ou ce n'est pas ce que tu dis ?
Je vais être très transparent avec toi. Je suis tellement victime de la croyance que je me pose encore la question. J'ai du mal à dire on enlève complètement le variable, ouais. Mais j'y viens petit à petit. Je suis de plus en plus sur ça. Parce que même sur un cycle court, je vais te dire pourquoi, parce que je constate qu'en fait, il y a beaucoup trop d'effets de bord pour peu d'effets positifs finalement.
Okay.
Tu vois, finalement, quand tu mets de la récompense comme ça variable, rappelle-toi, tu as été commercial, tu sais, on a tous connu dans nos équipes ou fait nous-mêmes ce qu'on appelle du frigo. Tu vois, donc, par exemple, tout d'un coup, pour avoir ton variable, tu vas retenir une signature. Ou l'inverse, encore pire, tu vas forcer une vente parce qu'il te manque ces XK pour atteindre ton objectif et pour avoir ta prime. Et du coup, ça va nuire à la qualité de service auprès du client, ça va nuire à la qualité, à l'image de marque de ta boîte. Et donc, à terme, tu te mets une balle dans le pied, en fait, pour un objectif très court terme. Et donc, on en revient au cœur du problème. En fait, le variable enlève l'essence de ce que tu fais. C'est-à-dire que tu ne fais plus que travailler pour la récompense et pas pour satisfaire le client, pour amener, faire gagner du temps à ton client, pour finalement le cœur de ta mission, tu vois. Et là, on ressemble de plus en plus à une souris. Je ne sais pas s'il y a une étude comme ça qui a montré, ils ont fait une étude sur des souris où on leur a fait faire un jeu où quand ils faisaient le jeu, ils avaient une récompense qui générait de la dopamine en eux. Et ils ont tellement été accros à la dopamine qu'elles sont mortes de faim. Elles ont oublié de manger. Elles ont fait que appuyer sur le bouton qui générait la récompense jusqu'à la mort, en fait. Et donc, c'est métaphorique, mais quelque part, pourquoi on a de plus en plus de sales qui burn out, qui trouvent plus de sens dans ce qu'ils font, etc. C'est parce qu'il y a peut-être, hein, j'ai pas la vérité absolue, mais peut-être qu'il y a une course à cette prime, à cette variable, et qu'on en perd l'essence de ce qu'on fait, pourquoi on vend. Et que peut-être si on revient à un fixe, on te dit, ben voilà, on te paye bien, et ta mission, ce que tu dois obtenir, c'est la satisfaction, c'est développer le produit, c'est avoir une mission, en fait, qui est armée d'une valeur, et pas ton objectif, c'est juste de déclencher le variable et d'avoir de la thune, même si il faut être pragmatique, bien sûr qu'on a besoin, tout travail mérite salaire et tout, mais encore une fois, ça se règle avec le fixe. Il y a trop d'effets négatifs, je trouve, dans le variable, avec le recul et l'expérience maintenant, je penche plus vers l'idée de, même sur un cycle court, il vaut mieux arrêter le variable. Et dernier effet de bord, tu vois, même en termes de collaboration, on a tendance aussi en tant que DIRCO à ne voir que notre BU. On est l'équipe commerciale et on pense qu'à nous. Mais en fait, dans une boîte, il y a d'autres entités. Et combien de fois la chasse à la prime, ça a créé des tensions et des problématiques entre les entités, tu vois. Tu as un dev qui dit, mais tu as vendu un truc, mais on ne peut pas le gérer. Ouais, mais c'est pas grave, vous allez gérer. Parce que moi, je voulais avoir ma prime, en fait. Et en fait, les devs, ils ne peuvent pas suivre derrière. Ou même le service client derrière qui ne peut pas encaisser. Donc, ça crée trop d'effets de bord négatifs. Et je suis en train, moi, personnellement, de changer d'avis là-dessus. Aujourd'hui, okay. Je suis aussi vendeur pour Will. Je n'ai pas de variable. Je ne me suis pas mis de variable.
Ok. Alors, Intéressant.
Donc voilà.
Mais c'est vrai que j'en parlais avec le directeur commercial de Welcome to the Jungle, et c'était des Welcome to the Jungle, qui est une boîte quand même qui réfléchit toujours au futur du travail. Et c'est des questions qui se posent, hein, et c'est les mêmes réflexions que l'on a ici. Tu as parlé à un moment donné de tout ce que tu dis, etc. Ça, finalement, ça remonte à Socrate et à la posture de maïeutique. Alors, j'imagine qu'en un podcast, c'est compliqué pour un manager commercial d'apprendre ça. Néanmoins, donc il pourra te contacter si vraiment il veut aller plus loin, mais néanmoins... Est-ce que tu as quelques petits conseils comme ça applicables? On imagine quelqu'un qui nous écoute dans sa voiture, il va rentrer, il va avoir son équipe de commerciaux. Qu'est-ce qu'il peut déjà mettre en place
Bien sûr.
Quotidien?
Alors, on a parlé de l'écoute active, donc je n'y reviens pas. Mais ça, faites-le tout le temps. C'est-à-dire quand quelqu'un vient vous voir avec un problème, au lieu de tout de suite vous jeter sur la solution, « Ah, mais il faut que tu fasses ça », essayez de le faire parler par écoute active, par de la reformulation et du silence pour que lui développe ce qu'il entend par ce problème. Et vous allez voir que 9 fois sur 10, il va lui-même trouver la solution, ou en tout cas, vous allez vous rendre compte que le problème qu'il a évoqué au début n'était qu'une partie visible de l'iceberg, et qu'en fait, il y a d'autres problèmes, et que ce n'est pas le bon problème. Et donc, quand vous répondez tout de suite, vous donnez la mauvaise solution au mauvais problème. Ça, je vous invite à venir faire la session découverte de la Will. Vous allez voir, en une heure, on vous explique toutes les techniques de manière très pragmatique pour le faire. Je n'insiste pas là-dessus. Un autre tip, ce qui peut être super intéressant pour vous, c'est qu'on disait tout à l'heure, on a tendance à vouloir faire les choses nous-mêmes et pas faire participer l'équipe. Mais moi, j'aimais bien faire participer l'équipe, mais je faisais des réunions où du coup, je prenais l'avis de chacun et on passait 3 heures et c'était un bordel. Okay. Donc, il y a des méthodes d'intelligence collective qui vont permettre de faire participer tout le monde. Je vais vous en donner une là maintenant. Pour faire participer tout le monde en un temps record et faire sortir des idées intéressantes qui viennent de l'équipe. Et donc, c'est plus puissant parce que ça vient de l'équipe. Et pourquoi ? Quel est l'intérêt de faire ça ? De faire participer l'équipe à la décision, à la stratégie, etc. C'est que, un, on n'est jamais à l'abri que l'équipe ait une meilleure idée que nous. Donc, ça veut dire aussi se mettre en posture d'humilité en tant que directeur ou manager, de se dire, peut-être vous avez une meilleure idée que moi. Et deux, c'est ce que je disais, c'est l'implication. Si ça vient d'eux, ils seront plus engagés et ils seront plus à même de le faire, plutôt que de leur imposer. Et trois, ça permet d'avoir une convergence. Ça permet de se dire, bah, tiens, quelles sont les idées qui sont le plus ressorties dans le groupe, et donc de prioriser aussi les idées. Et cette méthode s'appelle, par exemple, c'est un des exemples, ça s'appelle le 1-2-4-all, 1-2-4-all. Et c'est une méthode où, par exemple, on va poser une question du type que devrions-nous faire pour améliorer telle stratégie, d'accord, commerciale, bam. C'est la question, elle est claire, on vérifie que tout le monde a compris la question. On va prendre une minute où chacun va réfléchir dans son coin pendant une minute. Les temps de l'exercice sont très courts volontairement parce que c'est basé sur la loi de Parkinson. Le cerveau travaille mieux sous contrainte. Et si vous avez un temps réduit, vous allez aller à l'essentiel. Donc, une minute, chacun réfléchit dans son coin et prend des notes, sans se parler. Ça permet que tout le monde participe. Parce que quand on est en réunion et qu'on dit « qu'est-ce que vous en pensez ?», il y en a un il y a Michel qui parle tout le temps, qui va lever la main, qui va accaparer la parole. Et il y a Jocelyn qui est plus timide, qui ne va rien dire. Et il ne va pas pouvoir partager, ou il va s'influencer. Là, en fait, on n'influence pas et on laisse le temps de réflexion à tout le monde. Une minute. Ensuite, vous passez au 2. Le 2, c'est on va avoir 2 minutes où on va mettre les membres d'équipe par paire et ils vont s'envoyer en ping-pong, chacun à leur tour, une idée qu'ils ont notée. Et ils vont l'affiner pour que ça soit résumé en une phrase. Puis, il y a le 4. Le 4, alors ça dépend de la taille de ton équipe, mais si, par exemple, ils sont 8, eh ben, le 4, ça va être de faire 2 groupes de 4. D'accord ? Donc, on passe du binôme à un groupe. Et là, dans le groupe, il y a un représentant de chaque binôme qui fait le jeu de ping-pong, mais au niveau du groupe, qu'on avait fait en 1-1, mais là, on le fait au niveau du groupe, dans chacun des groupes. Et le hall, c'est un représentant de chacun des groupes qui reste à la fin, qui va donner son idée, puis l'autre son idée, puis l'autre son idée. Et à chaque fois que quelqu'un donne une idée, l'autre groupe dit « on l'avait aussi » ou « on ne l'avait pas ». Et ça permet de noter un x2, ou x2, x3, ou x4 quand on est plusieurs. Et ça permet justement de prioriser les idées. Et à la fin, tu as en moins de 30 minutes, ou moins de 20 minutes, ça dépend combien vous êtes dans le groupe, tu peux faire ressortir des idées très concrètes, les faire converger parce que tu les as priorisées, tout le monde a participé et tu as parallélisé le temps. C'est-à-dire que tu as gagné du temps. Au lieu de faire « Alexandre, qu'est-ce que t'en penses ? Jade, qu'est-ce que t'en penses ? Jocelyne, qu'est-ce que t'en penses ?» Bah là, en fait, tout le monde a réfléchi en même temps et on a gagné du temps fou.
Ok.
Ça, c'est un exemple d'intelligence collective, faire travailler son équipe.
Très bien. On peut l'utiliser, j'imagine, en dehors des groupes de vendeurs. Hein. Ça peut s'appliquer. Juste quelques questions de détails. Quand tu passes à… Donc, tu as fait 1 minute, 2 minutes, 4. Quand tu passes au groupe, c'est 4 minutes le groupe, c'est ça ?
Exactement. 4 minutes. L'idée, c'est toujours de garder un temps très court pour pas qu'on parte dans tous les sens et pour aller à l'essentiel, en fait.
Ok. Et quand tu fais le hall, là, c'est combien de minutes ?
Et là, le hall, généralement, tu reprends aussi tu mets 5 minutes, tu rajoutes une petite minute et tu fais un aller-retour. Ou tu peux, si tu trouves que c'est super intéressant, te dire que l'important, c'est plutôt que tout le monde donne toutes ses idées. Donc, tu peux prendre un peu plus de temps. Mais là, l'idée, c'est juste de maintenir le côté ping-pong. Tu vois, c'est-à-dire que ça peut même durer. Si par exemple, chaque groupe avait 5 idées et que dans les 5, ils en avaient 3 qui étaient les mêmes, bah, ça va aller super vite. Parce que dès que le groupe 1 va dire on avait l'idée A, l'autre groupe va dire on l'avait aussi, ok. Le groupe 2 va dire on avait l'idée B, le groupe 1 va dire on l'avait aussi, ok. Bah, tu vois, ça enlève déjà 4 idées potentielles qui auraient pu être citées et ça va beaucoup plus vite.
Ok. Et est-ce que, bon, j'imagine, hein, mais est-ce que tu as une limite de personnes dans cet exercice?
Non, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a déjà fait des 1, 2, 4 rôles avec tu vois, des groupes de 60 personnes. Moi, j'ai déjà animé un atelier de 60 personnes comme ça. Alors, après, c'est qu'on va plutôt recommander de diviser en sous-groupes. C'est mieux, tu vois. Mais jusqu'à 30, c'est très, très faisable. C'est très agréable. Après, voilà, si tu peux limiter à 30, c'est mieux. Mais le principe, justement, de ces méthodes-là qui viennent des Liberating Structures, c'est justement de faire travailler des groupes nombreux de manière ultra efficace en un temps record.
Ok, hyper intéressant. Bah voilà, vous pourrez essayer ça en revenant à votre bureau avec votre équipe. Est-ce que t'en vois une autre de méthode qu'on pourrait partager?
Il y en a beaucoup, tu vois. Il y a aussi donc on a dit l'écoute active, l'intelligence collective. J'essaie de vous donner des trucs un peu différents. La pyramide, on en a parlé tout à l'heure, vraiment comme un outil diagnostique, c'est-à-dire arrêter de tout de suite vouloir trouver la solution sans creuser, sans diagnostiquer d'où vient le problème. Et la pyramide, c'est ultra puissant pour ça. Ok. Un autre truc, je vous le redonne, hein, c'est environnement. Activité, donc environnement avec qui, où, combien de temps tu travailles. L'activité, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement dans tes journées. Donc activité comportement, compétence.
Là, tu es en management d'une personne là, quand tu expliques ça.
Alors, justement, en fait, cette pyramide, tu peux l'appliquer soit en one-one. Justement, vous voyez, c'est super intéressant. Là, tu me donnes un exemple concret. Quand vous faites des one-one en tant que manager commercial avec votre N-1, souvent, vous allez parler chiffres, vous allez parler peut-être de 2-3 trucs de formation de vente. Et si vous êtes un peu humain, vous allez dire « Comment tu te sens? Parle-moi un peu de toi. » Et c'est bien, c'est très bien, mais ça va rester un peu, ça va flotter un peu comme ça. La pyramide, ça permet vraiment de faire un truc ultra cadré où on va laisser la personne s'exprimer par l'écoute active et on va l'aider à identifier par elle-même ses sources d'alignement et de désalignement entre qui elle est et ce qu'elle fait. Quand elle va vous parler de son environnement, de ses compétences, des activités qu'elle fait, des qualités qu'elle pense devoir maîtriser pour faire ses activités, de ce qui est important pour elle, les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans ton métier. Et là, on va vraiment creuser ce qu'on disait tout à l'heure, l'individualisation. Qu'est-ce qui est important pour elle? Est-ce que c'est d'apprendre parce qu'elle a un projet entrepreneurial dans 3 ans qu'elle veut lancer et là, son but, c'est vraiment d'apprendre plein de choses? Est-ce que elle veut mettre de l'argent de côté? Oui, mais ce n'est pas pour l'argent, parce qu'elle veut acheter une maison pour sa famille, etc. Donc, qu'est-ce qui est important pour elle? Et le rôle, comment elle se perçoit dans son rôle de commercial? Ça, c'est très important. C'est-à-dire, en gros, si tu devais donner une métaphore de toi en tant que commercial, ça serait quoi? Et en fait, la pyramide, ce qu'elle nous dit, ce qui est puissant, c'est que les étages du haut influencent les étages du bas. Et donc, si par exemple, quelqu'un vous dit, moi, mon rôle, c'est moi, je suis un tueur. Ouais, si un commercial, il vous dit son image, c'est je suis un tueur, et ben ça risque d'influencer ce qui est important pour lui, c'est-à-dire de signer, de closer, etc. D'accord? Mais en quoi c'est important pour toi de signer? C'est parce que je persuade, parce que je suis dans l'efficacité. D'accord, donc l'efficacité, c'est important pour toi et tout. Et on redescend, et en fait, ça va agir sur ses comportements. Donc, il va avoir des comportements de chasseur, de tueur. Si un commercial vous dit, moi, ce qui est important pour moi, c'est, je ne sais pas, s'il se voit comme un apporteur de solutions pour ses clients, il va avoir d'autres comportements. Okay, donc, cette pyramide, pour répondre à ta question, elle peut te servir, toi, en tant que manager, en tant qu'outil diagnostique, et elle peut te servir en one-one. Donc, toi, tout seul, tu peux essayer de scanner quelqu'un en passant la pyramide en disant, tiens, est-ce qu'il sait faire? Est-ce que c'est un problème de valeur? Est-ce que c'est dans ton coin? Ça peut te servir de diagnostic, mais c'est surpuissant quand tu l'utilises comme outil d'accompagnement, justement, de coaching de ton équipe en individuel. Chacun, tu leur fais leur pyramide et tu leur permets à eux-mêmes de prendre conscience de ce qui va et ce qui ne va pas, là où ils sont alignés ou pas alignés, là où c'est cohérent ou pas cohérent avec leurs valeurs et leurs actions.
Ok. Est-ce que tu peux me redire la pyramide? Donc, tu parles, alors je ne sais pas si on part du haut ou du bas, tu parles de l'environnement, l'activité, quelle est la suite?
Alors, ça typiquement, en fait, si tu veux, la théorie veut que le haut influence le bas, mais quand on fait le diagnostic avec notre membre d'équipe, on va partir du bas vers le haut, justement. On va partir du bas, on va d'abord lui dire, décris-moi ton environnement de travail aujourd'hui, où tu travailles, avec qui tu es en contact et de quelle heure à quelle heure. Et en fait, on peut se dire, mais c'est bizarre de demander ça parce que, en fait, on le sait, Mais en fait, vous allez voir que d'une personne à l'autre, il y en a peut-être un qui va vous dire bah, « je fais du 9h-6h », et puis il va vous dire « généralement », par exemple. « Je fais du 9h-6h généralement. » « Généralement ?» Ouais, parce qu'en fait, tu sais, souvent, je n'ai pas trop le temps de remplir le CRM, et donc en fait, je le fais chez moi à 8h. Ah. Donc, là, ce que je viens de faire, c'est de l'écoute active. Il a dit « généralement », c'est un terme flou. Au lieu de rien dire ou quoi, je l'ai renvoyé. Je dis « généralement ». Et là, il me dit « ouais, parce qu'en fait, parfois, je suis obligé de terminer, tu vois, les prises de notes, les récaps le soir. » D'accord. Et ça, peut-être que vous vous en rendiez même pas compte en tant que manager. Donc, peut-être que là, déjà, il y a une action sur l'environnement pour qu'il puisse mieux organiser son agenda, pour qu'il n'ait pas à travailler le soir. Okay, peut-être. Je projette. Je ne sais pas. Je n'ai pas creusé le cas de la personne. C'est là la difficulté, entre guillemets. On disait tout à l'heure, c'est simple. En fait, les méthodes sont plutôt compréhensibles et simples. Ce qui est difficile, c'est que ça prend du temps. Il faut prendre le temps de se poser avec son manager pour travailler là-dessus. Et ça, beaucoup de managers commerciaux, directeurs commerciaux qui nous écoutent vont se dire « mais il est gentil, Jade, mais on n'a pas le temps de faire ça. » Et moi, ma réponse, c'est « je sais, j'ai été à votre place, j'ai managé des équipes nombreuses et je me disais « j'ai pas le temps. » Sauf qu'en fait, il faut voir ça comme du ROI. C'est-à-dire qu'en fait, ok, tu vas peut-être passer une heure dans la semaine avec ton gars ou t'as, je sais pas, c'est générique le gars, c'est un terme générique, avec ton membre d'équipe. Et tu vas peut-être passer une heure et tu vas dire, ouais, j'ai passé une heure là à faire une pyramide avec lui. Mais cette heure-là, elle va t'économiser 3 mois de problèmes.
Okay.
Parce que tu sauras exactement là où il faut travailler avec lui. Alors que tu peux toutes les semaines faire que 15 minutes de one-one avec lui ou 30 minutes. Et ne jamais mettre le doigt sur le vrai problème et au bout de 3 mois, le gars se barre ou burn-out, etc. Donc,
oui, c'est de l'investissement.
C'est un investissement qui est rentable. Ouais. Et tous ceux qui ont été formés à cette méthode te le disent après coup. Te disent, au début, je me disais, mais ça prend trop de temps. Et en fait, j'ai compris que c'était un gain de temps au final et un gain d'efficacité surtout. Si, encore une fois, on veut s'inscrire dans une équipe qui dure, si tu veux juste… Parce qu'il y a aussi un problème de systémique. Parfois, tu as des startups, ils lèvent des fonds. Je l'ai vécu. Hein. On embauche 100 personnes et puis tous les 3 mois, on en vire 30.
Ouais.
Si tu es dans ce système-là, oui, c'est compliqué. Mais toi, à ton niveau, en tant que manager, tu peux peut-être changer un peu les choses. Tu as la main pour changer les choses aussi.
Ok. Donc, je reprends. Donc, tu expliques l'environnement. Après, tu abordes l'activité de la personne.
Ouais. Environnement, activité. Donc là, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Raconte-moi ta journée ou ta semaine. Quelles sont tes tâches, en fait? Et là aussi, vous allez voir qu'il y en a qui vont vous dire, bah, peut-être en vous donnant leurs tâches, ils vont se rendre compte qu'ils passent peut-être trop de temps sur certaines tâches et pas sur d'autres. D'accord? Et ça viendra d'eux. C'est eux-mêmes qui vont le dire. Tu vois. Donc ça, c'est les tâches, les activités, comportements, tâches. Ensuite, il y a les compétences. C'est de quelle qualité tu as besoin pour réaliser ses missions, ses tâches au quotidien. Donc, j'ai besoin d'être pédagogue, j'ai besoin d'être à l'écoute, j'ai besoin du client, j'ai besoin d'être synthétique dans mes récaps, j'ai besoin de… etc. qui va vous donner des qualités. Et là aussi, ça va, un, le renforcer lui, de se dire « waouh, en fait, j'ai pas mal de compétences, en fait. » Et aussi de vous dire « sur ça, je me sens moins bien » ou « tiens, sur ça, il faudrait que je sois comme ça, mais je sais que je pourrais mieux faire. » D'accord. Donc, ça vous permet aussi d'identifier là où vous pouvez l'aider, l'accompagner en formation.
Ok. Et après, c'est ce qui est important pour
toi. Ensuite, c'est les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et là, on va essayer d'aller chercher vraiment le besoin fondamental de la personne. Donc ça, je ne peux pas le faire là en 2 secondes, mais justement, on forme les gens à utiliser cet outil. Là, je vous l'ai fait en méga accéléré, hein, mais il y a des manières d'amener cet outil. Et enfin, le dernier, c'est ton rôle. Et le rôle, c'est vraiment la question, c'est d'écrire ce que tu fais sous forme d'une métaphore à quelqu'un qui ne saurait pas ce que tu fais. Donc souvent on a des belles métaphores du type je suis pompier. On a des métaphores négatives et positives. Il y en a qui disent je suis un pompier, je suis une baby-sitteuse. Ça, souvent j'ai entendu ça dans le service client. Alors que d'autres vont vous dire moi je suis un accompagnateur. Ah ok. Je suis un résolveur de problèmes ou je suis un enquêteur. Ouais, c'est plus positif déjà comme métaphore. Ça détermine tout le reste.
Du coup, après, ils vont le mettre en titre LinkedIn.
Ça peut être leur titre LinkedIn, effectivement.
Ok. Et ça, tu conseilles de le faire à quelle fréquence?
Alors, à minima, votre entretien annuel, d'accord, comme là, vous prenez le temps, faites-le bien. Et en vrai, il n'y a pas de fréquence dans le marbre. C'est, moi, je pense, au moins une fois par trimestre. Une fois tous les quarters ou tous les trimestres pour vraiment faire le point. Et parfois, on peut l'enclencher une pyramide quand on sent qu'il y a un désalignement. Quand vous ou votre collaborateur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez vous dire, bien, on va refaire un peu la pyramide ou alors on va faire un exercice si vous ne l'avez jamais fait. Je te propose de faire un exo juste pour que je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout. J'aimerais bien qu'on identifie ensemble ce qui ne va pas et comment je pourrais juste… Le but, c'est justement de savoir comment je pourrais t'aider à réaligner ça, en fait.
Okay.
Et ce qui est fou, c'est que ces pyramides-là, ça aide les gens à repartir. et où, parce qu'on a identifié les problèmes et qu'on peut trouver des solutions, et où, s'il n'y a pas de problème, si on est aligné, si on fait la pyramide et qu'on est aligné, ça rebooste la personne parce qu'elle prend conscience de son alignement. Elle se dit, mais j'en ai fait une là, il n'y a pas longtemps avec une amie, comme ça pour rigoler, et elle m'a dit, mais c'est fou, en fait, je me rends compte que c'est vraiment ce que ça que je veux faire. C'est le métier que j'ai envie de faire. Par contre, c'est l'environnement qui ne va pas. Ah, d'accord. Bah, du coup, tu vois, ça te rebooste sur ce que tu sais faire et que tu aimes faire. Et dernière possibilité qui existe, hein, on n'est pas dans le monde du bisounours, on se rend compte qu'on est complètement trop désaligné et que du coup, bah, il faut mieux se séparer en fait. Mais au moins, c'est factuel. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, après la formation Will, ils m'ont dit, j'ai fait la pyramide avec deux cas très complexes et les deux, on en est arrivé à, on va se séparer, mais on s'est séparé de manière super fluide. C'est-à-dire que ça a été très, ça venait d'eux, c'était clair, ils ont eux-mêmes acté le fait qu'ils n'étaient plus alignés. Et du coup, ces deux personnes sont devenues maintenant des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis, oui, parce qu'on n'est pas aligné. On n'est pas obligé d'être marié à vie sur la mission, sur les valeurs, etc.
Ouais.
Mais au moins, ça se passe bien, en fait. On sait pourquoi on se quitte.
Ouais, ils ont réalisé, en fait, que leur rôle, leurs valeurs étaient, comme tu l'as dit, pas alignées. Ouais. Et ça leur a permis de partir. Et à contrario, des fois, tu as des gens qui aiment bien leur travail, leurs tâches, etc. Mais ça peut être l'environnement, tu vois, qui cloche parce qu'ils doivent faire beaucoup de routes pour aller au bureau ou ils ne sont pas peut-être dans la bonne équipe et que si tu suffit que tu les changes d'équipe, ça irait mieux. Enfin, il y a plein de choses finalement qui peuvent faire qu'un boulot t'épanouisse ou pas. Mais ça peut être des détails. Ça peut être un chaînon manquant, en fait.
Et souvent, on n'arrive pas à identifier, justement. Mmh. Et même la personne en face de vous, elle n'arrive même pas à l'identifier. C'est quand vous lui dites qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Ce qu'on fait généralement dans les entretiens, on dit « Alors, dis-moi ce qui va, ce qui ne va pas. » Ok, bah, la personne, elle va vous dire des trucs, mais elle-même, elle n'a même pas pris conscience du problème. Alors que des outils comme la pyramide et d'autres, d'écoute active, là, on l'a fait vraiment en accéléré. Hein. Ça a l'air un peu… mais en fait, c'est vraiment très, très puissant et c'est très actionnable, très concret. Et ben en fait, c'est exactement ce que tu as dit. Parfois, c'est juste, moi, en fait, si je pouvais partir une heure plus tôt tel jour, ça change complètement la motivation de la personne, en fait. Et pourquoi pas, finalement, pourquoi pas Donc, ouais, c'est à ça que ça sert.
Ben écoute, Jade, c'est vraiment bien. Tu nous as donné des tips actionnables. Donc, le 1-2-4 minutes all, ça j'ai bien aimé, la pyramide, l'écoute active, on a parlé aussi de variables, donc on a fait un bon... Tu as délivré beaucoup de valeur en une trentaine de minutes. Est-ce que avant qu'on passe aux questions de la fin, tu voulais ajouter quelque chose sur ces différents sujets?
Moi, je dirais juste que il faut vraiment arriver en tant que manager, en tout cas moi c'est le déclic que j'ai eu, à avoir l'humilité de se dire que on n'a pas forcément toutes les solutions. Et deux, et ça, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Honnêtement, moi-même, à des moments, je me mettais en rôle, c'est moi le patron, donc c'est moi qui dois amener les solutions. C'est pas forcément, ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Hein. Donc, j'insisterai vraiment sur ça. Mettez-vous dans cette posture d'humilité et mettez-vous dans la posture, la solution est très souvent chez vos collaborateurs. Et vous n'avez pas à vous mettre vous-même la charge. Vous pouvez vous aider de vos collaborateurs pour trouver ensemble la solution. Voilà. Vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est le fond du sujet. Et après, tout le reste, c'est des méthodes pour vous aider à faire ça très concrètement.
Très bien. Ben, écoute, il me reste quelques questions pour toi. Pareil, en mode ping-pong. J'aime bien cette métaphore. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter?
Littéralement, ce que je viens de dire, c'est arrêter d'essayer de trouver les solutions tout seul. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions tout seul. Donc ça, gagne du temps. Fais travailler l'intelligence collective, comme on l'a vu avec l'exercice, par exemple. Fais de l'écoute active et gagne du temps, en fait. Arrête de vouloir tout résoudre tout seul.
Ok. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait trop tard, selon toi?
Pareil, je suis désolé, hein, je tourne en rond, mais c'est ça, c'est comprendre que la solution est déjà dans la personne qui t'amène le problème. Ok. Ton but, c'est d'essayer de lui faire trouver par elle-même la solution, à minima, et après, tu peux l'accompagner, tu peux construire avec elle la solution, mais en tout cas, elle a déjà une partie de la solution en elle. Et ça, c'est vraiment un mindset. Quand j'ai changé ça, ça a changé toutes mes approches en tant que vendeur, en tant que manager et même en tant qu'être humain avec mes amis, ma famille, etc.
Ok. Petite question surprise qu'on n'avait pas prévu, que j'emprunte à Tim Ferriss. Est-ce que tu as un achat de moins de 100 euros à nous conseiller qui t'a aidé ou qui t'a changé ta vie?
Un achat de moins de 100 euros qui a changé ma vie. Très bonne question. Ouais, Ouais, carrément. C'est des livres, en fait. J'en ai plein, mais s'il faut en choisir un. Alors, je vais en donner deux. Je vais tricher, je vais en donner deux.
Allez,
Casquette Corporate, le livre de la méthode Will, qui est un roman de management où on voit toutes les méthodes que je vous ai données un peu rapidement, mais de manière contextualisée dans un cas réel. Il y a un roman qui se lit super bien. Il coûte 25 euros. Et ça a changé. C'est ce qui a fait que j'ai rejoint Pierre en tant qu'associé à la Will. Donc, moi, ça a littéralement changé ma vie.
Il s'appelle
La méthode Will.
Okay.
C'est sur Amazon. Si vous tapez La méthode Will sur Amazon, vous allez roman de management, ou même sur Google, vous tapez roman de management, La méthode Will, vous allez tomber dessus. Et l'autre bouquin que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup impacté, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck.
Ah oui, oui, l'art de
n'en avoir rien à faire, qui en fait, contrairement au titre qui est un peu racoleur, rejoint ce qu'on est en train de dire sur la pyramide. C'est que le message, c'est pas d'en avoir rien à faire de rien, c'est de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et donc, sur ton étage des valeurs, qu'est-ce qui compte vraiment, et t'aligner, de faire tout par rapport à ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est là où en fait, t'es efficace, où t'es impactant. Et c'est pareil pour tout le monde en fait.
Ouais, je vois très bien. J'avais commencé à lire, il faut que je le reprenne.
Et le ton est marrant.
Ouais,
le ton est marrant, il est ironique et tout. J'aime bien le ton aussi. Ça se lit très bien.
Ça se lit bien, ouais. Très bien, il me reste deux questions. Alors, tu as parlé de compétences. Est-ce que toi, tu as une compétence que tu aurais aimé avoir plus tôt? Est-ce qu'il y a une autre compétence que tu n'as pas aujourd'hui et que tu aimerais avoir?
Ouais. Alors, dans les compétences que j'aurais aimé avoir plus tôt, je vais reciter l'écoute active, les outils d'intelligence collective pour faire travailler le groupe. Et je vais en rajouter deux nouvelles que j'ai commencé à... J'ai fait un gros travail sur moi pour les acquérir, et c'est un travail continu. C'est l'intention positive.
Ok.
C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un comportement qui ne te plaît pas dans ton équipe ou avec un client ou quoi, de te mettre dans une intention positive, de te dire, avant de te dire tout de suite, tu vois, exemple cliché, le client qui ne se connecte pas, qui te shadow ton rendez-vous, il ne vient pas, il ne te prévient pas. Bah, la première chose qui monte, c'est je ne sais pas si on peut dire des insultes sur le podcast, c'est un manque de respect, etc. Et on part tout de suite dans des intentions négatives. Et ça n'apporte rien de bon, finalement. Ça te stresse, ça t'énerve, ça te met dans une mauvaise posture, ça t'oriente vers aucune solution. L'intention positive, ça serait de se dire, dès qu'il y a un truc qui t'énerve ou tu sens la sauce monter, c'est de te dire, quelle bonne intention aurait la personne en face de faire ce comportement que je trouve mauvais? Et donc, quelle bonne intention il aurait, ou quelle intention justifiée il aurait de ne pas être là à ce rendez-vous. Peut-être sa fille est malade, il a dû partir en urgence, il n'a rien pu envoyer comme message ou quoi, etc. Et il se trouve que ce jour-là, c'était ça. Ma cliente avait sa fille qui a eu un gros, gros problème, et elle est partie en courant, quoi. Elle a tout lâché. Parfois, ce n'est pas ça. Parfois, c'est vraiment un manque de respect, ou ça peut être une intention négative, mais toi, le fait de te mettre en intention positive, ça te pousse déjà à mieux vivre les choses et à essayer de trouver des solutions, ou à dire, au lieu de m'énerver et de lui envoyer un scud, je lui ai envoyé un truc, genre, j'imagine que vous avez un empêchement, est-ce qu'on peut replanifier ça, et voilà, et ça a maintenu la relation. Pareil avec quand vous avez des collaborateurs ou autres ou qui ont des comportements qui ne vont pas, essayez de comprendre quelles bonnes raisons ils ont de ne pas le faire, avant de leur dire, mais fais-le, mais je ne comprends pas, mais je t'ai dit de le faire, mais tu... Voilà, ça, l'intention positive, ça paraît con à dire comme ça, c'est super dur à appliquer. Et quand vous arrivez à le faire, ça crée un climat de confiance aussi avec votre équipe, parce que l'équipe, elle se dit, en fait, lui, il n'est pas là pour me mettre des tatanes tout de suite ou pour me reprocher des choses, mais il veut déjà dans un premier temps comprendre. Et même si la personne est en tort, peut-être elle sera plus à même de vous le dire dans ce cas-là. D'accord ? Et l'autre grosse compétence, je dirais, c'est la responsabilité personnelle, qui se couple très bien avec l'intention positive qu'on vient de dire, c'est quelle est ma part dans l'échec ou dans ce qui se passe en fait ? Quelle est ma part ? Est-ce que, par exemple, le client qui n'est pas venu, est-ce que j'aurais pu envoyer un rappel la veille pour lui rappeler qu'on a rendez-vous demain? Est-ce que je n'ai pas assez bien qualifié ce rendez-vous? Et en fait, il m'avait dit oui, mais il ne voulait pas venir à ce rendez-vous. D'accord? Quelle est ma part à moi? Pareil, un collègue qui vous dit, qui ne fait pas quelque chose, quelle est ma part? Est-ce que je lui ai assez bien expliqué ce que j'attendais de lui? Est-ce que j'ai vérifié qu'il sait faire ce que j'ai attendu de lui? Parce que parfois, moi, je disais à des collègues, j'avais reçu une primo commerciale et elle n'avait jamais fait de la vente. Et moi, je lui donne ma méthode, voilà, comme on dit, le process. Je dis, il faut que tu fasses tant d'appels, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises tel discours, etc. Allez, vas-y. Et en fait, la première semaine, elle ne le faisait pas. Et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne le fais pas. Et en fait, c'est juste qu'elle avait peur. Elle ne l'avait jamais fait. Donc, elle avait juste besoin que je sois avec elle. Donc, ma part, c'est que je ne l'ai pas assez accompagnée. Je ne l'ai pas assez soutenue pour qu'elle fasse ce que je lui demande de faire.
Donc, voilà. Et puis, c'est aussi, quand tu analyses un échec, c'est aussi vraiment de... comme tu l'as dit, faire la part des choses, mais de dire, ok, ça c'est imputable à mon environnement, à d'autres choses que je ne maîtrise pas, et puis il y a des choses imputables à moi-même que je peux corriger pour le prochain challenge.
Exactement. Ça, c'est encore un autre outil qu'on a, c'est la clarification d'objectifs. C'est okay. Qu'est-ce qui dépend que de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi. Et je me concentre okay. sur ce qui dépend de moi.
Ok, très bien. Dernière question, Jade. Est-ce que je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast? Tu me proposes qui?
Bah, moi, c'est un peu classique, mais c'est le premier qui me vient à l'idée, c'est Simon Sinek. Parce que, tu vois, dans toutes ses interventions, dans ses livres, ça se rejoint beaucoup avec ce qu'on défend à la Will, c'est-à-dire de travailler sur des sujets liés à la confiance. En fait, le plus important, c'est de créer la confiance dans l'équipe, à l'utilisation des émotions aussi. C'est-à-dire, en gros, on a cette croyance, on parlait des fausses croyances, on a aussi cette croyance de les émotions, il faut les laisser à la porte. Et c'est une énorme erreur, parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, vos émotions, elles rentrent avec vous quand vous arrivez au travail. Et donc, il faut les travailler, il faut les comprendre. C'est pour ça, notamment, qu'on enseigne beaucoup la communication non violente qui travaille sur l'émotion et essaie de remonter aux besoins qu'il y a derrière l'émotion. Donc ça, c'est très, très important. Et Simon Sinek, il évoque tous ces sujets à sa sauce, à sa manière, avec un très bon storytelling. Donc, il a bossé avec des forces spéciales, il a bossé avec des... C'est assez intéressant d'écouter Simon. Donc, moi, ça serait lui, Marocco.
Ouais, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est souvent dans les épisodes de vente sur la prospection, le closing, etc., finalement, tu te rends compte que le mot-clé dans tout ça, c'est la confiance avec ton prospect ou ton client, qui est compliqué à instaurer, mais une fois que tu l'as, bah, tout est plus fluide. Et là, sur la partie management, en fait, c'est la même chose avec ton collaborateur, c'est générer de la confiance pour que chacun avance dans la bonne direction.
Yes.
Ben écoute, Jade, merci beaucoup. Si les auditeurs veulent te joindre, on peut leur proposer de te joindre sur LinkedIn.
Ouais, alors bah, deux choses. Moi, ce que j'invite tous les auditeurs qui se disent, tiens, ça peut être intéressant de découvrir ces méthodes-là, ça peut m'aider à devenir un meilleur manager en libérant le potentiel humain de mes collaborateurs, bah, venez faire la session découverte. En fait, j'offre tous les 10 jours 1h30 de formation à ces méthodes gratuites. Et c'est la première brique de la formation. C'est vrai que je vous offre la première brique de la formation. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus en détail ce qu'on appelle l'écoute active, la posture de manager coach, etc. Ça va être beaucoup plus concret. Et ce sera sur vos cas. C'est-à-dire que vous venez, on le fait sur vos cas à vous. Donc, c'est très pragmatique, très concret. Et vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Vous pouvez me joindre aussi par mail. Je ne sais pas si on le met dans le chat ou je le dis à l'oral, mais c'est jade@will-du6agent.com. N'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir. On peut échanger quand vous le désirez.
Ok, bah, écoute, merci beaucoup Jade pour cet épisode plein de valeur. N'hésitez pas à le contacter et puis à partager cet épisode autour de vous si vous avez des collègues managers ou des collaborateurs qui se font manager et qui ont besoin de progresser sur ces aspects-là. Jade, à bientôt.
Merci beaucoup Alex, j'étais très heureux d'échanger avec toi et à bientôt.
À bientôt, salut.
Ciao.
Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site lesherosdelavente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5/5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous !